qui vous accompagne en vacances, au bureau, au village, à la maison, où que vous soyez, pour que 2021 soit une année digitalement excellente. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Dans Priorité Santé, nous abordons chaque jour la question de l'accès aux soins et pour certaines maladies, cette possibilité ou non d'être soigné, comment notre santé peut dépendre de notre lieu de vie et de nos revenus. Des données officielles permettent de se faire une idée sur cet écart, ce fossé qui constitue dans une certaine mesure un miroir de l'injustice à l'échelle planétaire. Injustice d'autant plus insupportable lorsqu'elle concerne la santé des enfants. Ces données statistiques, elles concernent les chances de survie pour les enfants atteints d'un cancer 4 fois plus élevé dans les pays riches que dans les pays en développement. Par exemple, 80% pour un enfant né en Europe ou en Amérique du Nord contre 20% pour un enfant né en Afrique ou dans un milieu modeste d'Amérique latine ou d'Asie. Des chiffres rappelés chaque 15 février à l'occasion de la Journée mondiale du cancer de l'enfant. Informer, sensibiliser, défendre le travail des chercheurs et des cliniciens pour bien distinguer ces cancers pédiatriques des atteintes qui concernent les adultes. Pour rappeler que le cancer demeure une cause majeure de décès chez les enfants et les adolescents dans le monde et que contrairement à ceux qui touchent leurs parents, la plupart de ces cancers ne sont généralement ni évitables ni dépistés. D'où l'importance d'un diagnostic précoce, précis et de l'accès à un traitement efficace pour tous les enfants du monde. Prendre en charge les cancers des enfants, un choix de santé publique. Quelles sont les tumeurs spécifiques qui touchent enfants et adolescents? Pour en parler avec nous en studio, docteur Dominique Valto-Coinet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef du département de cancérologie de l'enfant au sein de l'hôpital Gustave Roussy à Villejuif. Soignez ces cancers partout sur la planète. Nous irons en République démocratique du Congo retrouver le docteur Alain Boudiongo, oncopédiatre et responsable de l'unité d'oncologie pédiatrique aux cliniques universitaires de Kinshasa. Une spécialiste qui œuvre notamment grâce au concours du groupe franco-africain d'oncologie pédiatrique, dont le professeur Pierre Bay est le porte-parole. Le professeur Pierre Bay, également directeur médical et secrétaire général de l'Alliance mondiale contre le cancer, à qui nous donnerons la parole au cours de cette émission.
Priorité santé sur RFI.
Alors dans un pays comme la France, on le sait, on dépiste un certain nombre de cancers, cancer du sein, cancer du côlon à certains âges de la vie pour certaines populations. Et aujourd'hui, on parle des cancers des enfants. Pour les plus jeunes, ce type de campagne de prévention n'existe pas. Alors docteur Dominique Valto-Coinet, on se pose forcément la question, comment ces diagnostics de cancer sont-ils généralement posés chez les enfants? Qui ou quel signe donne l'alerte?
Alors, c'est le plus souvent les parents qui vont donner l'alerte en constatant de façon assez brutale que leur enfant, qui allait tout à fait bien, se met à présenter des symptômes qui peuvent être des douleurs, des difficultés à marcher ou l'apparition d'une boule quelque part qu'ils découvrent au moment où ils font la toilette de leur enfant. Donc, ce sont le plus souvent les parents qui alertent l'ensemble de la communauté médicale.
On distingue bien cancer des adultes, cancer des enfants, des maladies différentes en oncologie pédiatrique, docteur Valto-Coinet, là la spécialisation a tout son sens.
Ah oui, c'est absolument essentiel. Ce sont des maladies vraiment très spécifiques et c'est parce que les cancérologues pédiatres se sont réunis, ont travaillé ensemble, qu'on a pu mieux connaître ces maladies et développer des protocoles de traitement adaptés.
Est-ce que ça veut dire, par exemple, que ces cancers chez l'enfant, ils dépendent moins du vécu de la personne par rapport à tous ces cancers qui sont liés, on peut dire, causes environnementales, hygiène de vie? C'est pour ça qu'on travaille sur la prévention chez les adultes.
En effet, la prévention n'a pas le même sens du tout que chez l'adulte. Et la plupart de ces enfants, d'abord, sont très jeunes. Et l'impact de l'environnement est, pour le moment, non identifié. On n'a pas de cause environnementale. Et quand un enfant naît avec un cancer, on peut quand même sérieusement s'interroger sur l'impact environnemental. Donc, le travail des oncologues pédiatres à l'heure actuelle est bien sûr de mieux comprendre les causes de ces maladies, mais avec des objectifs plus spécifiques à l'enfant.
Vous dites un enfant né avec un cancer. Est-ce que lorsque l'on pose un diagnostic et qu'on est cancérologue ou oncopédiatre, on est capable de dire depuis quand la maladie est là ou c'est quelque chose qui est tout à fait impossible ?
C'est difficile, mais le plus souvent, ces enfants ne sont pas malades depuis longtemps au moment où on en fait le diagnostic. Ce sont des maladies très rapidement évolutives. Ils allaient parfaitement bien une semaine, 15 jours avant le diagnostic et les choses évoluent très très vite. Et on le voit souvent entre le moment où les premiers signes sont identifiés, le temps qu'on fasse le bilan, il se passe parfois à peine une semaine, et on voit la maladie progresser avec une vitesse folle. Donc ces enfants n'ont pas une longue évolution de la maladie avant qu'elle soit diagnostiquée.
Et c'est quelque chose qui est peut-être à rappeler pour éviter de culpabiliser les parents qui disent « j'ai pas vu, j'aurais pu, ceci, cela ». Non, c'est quelque chose qui est invisible.
Je pense que c'est un message extrêmement important pour les parents. Ils ne sont pas passés à côté de quelque chose, y compris quand la maladie est diffuse au moment où on en fait le diagnostic. Et leur enfant n'était pas malade depuis longtemps. Ça, c'est vraiment essentiel de le dire et de le répéter.
On l'a compris tout de suite, toute la famille impliquée, les parents en première ligne. Quand on annonce ce diagnostic, on imagine, c'est vraiment, toutes les maladies, c'est compliqué, mais là, c'est hors norme, docteur Dominique Valto-Couanet. Est-ce que c'est quelque chose qui s'apprend ?
Je pense que ça s'apprend, en effet. On a progressé, on a appris, y compris des parents, à ce qu'il faut faire et ne pas faire. Et donc, il y a des conditions dans lesquelles il faut faire une annonce. Ça se fait pas dans un couloir. Ça se fait en prenant le temps et en prenant le temps de dialoguer avec les parents pour les amener à ce diagnostic en comprenant quelle est leur histoire, quelle est l'histoire de la maladie et d'arriver au diagnostic. Donc, c'est des choses qui s'apprennent et de plus en plus, on enseigne les jeunes médecins pour leur montrer les mots qu'il ne faut pas employer, la façon dont il faut parler aux parents pour que cet événement qui, de toute façon, est un séisme dans leur vie, soit le moins difficile possible.
Mais on va dire que quand ils arrivent chez vous dans le service spécialisé, une grande partie du chemin a déjà été effectuée. Ça veut dire que c'est aux généralistes, souvent, c'est quoi les étapes précisément ?
Ça dépend un petit peu des cursus, mais souvent, c'est malgré tout dans le service que l'annonce réelle est faite. Et ça aussi, c'est un dialogue avec les autres médecins pour savoir jusqu'où ils vont dans l'annonce, pour qu'on puisse faire une annonce associée avec un programme, soit de bilan, soit de traitement, ce qui donne déjà une perspective d'avenir, parce que l'annonce toute seule, c'est vraiment extrêmement difficile pour des parents.
Pas être mis devant un mur. Oui. La maladie, donc, vous l'avez dit, séisme qui change le quotidien de toute la famille. Alors, ensuite, s'il y a hospitalisation avec les traitements, on a les images évidemment des enfants qui perdent leurs cheveux, souvent très très pâles pour les enfants en Europe par exemple. En cette période de crise sanitaire avec la pandémie, est-ce que ce contexte a changé les conditions de la prise en charge ? Et on pense bien sûr à cette socialisation des patients qui fait partie aussi de la prise en charge.
Oui, on a beaucoup travaillé sur la prise en charge globale de l'enfant et de sa famille. Et dans la situation actuelle, les choses sont rendues très difficiles. Alors, on maintient la venue des deux parents au moment du diagnostic. Hein, mais à l'heure actuelle, les règles dans la majorité des services, c'est un seul parent pendant que l'enfant est hospitalisé et pas de fratrie, ce qui va le couper de son monde à lui. Et c'est quelque chose qui impacte beaucoup la prise en charge.
Alors, on va vous retrouver dans quelques instants, docteur Dominique Valto-Couanet. Maladie, on l'a compris, qui s'affronte en famille. On donne la parole à une maman. Cette maman, c'est vous, Magali Bidou, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, vous êtes la mère de trois enfants. L'aîné s'appelle Noah, âgé de 15 ans. Magali Bidou, quel est le nom de la maladie du cancer dont souffre votre fils ?
Alors, Noah, il souffre d'un gliome des voies optiques. Il a été diagnostiqué, il avait 5 mois.
Il avait 5 mois, il était tout bébé aujourd'hui, donc 15 ans. Est-ce que vous vous souvenez, on vient de parler avec notre invité des circonstances de l'annonce. Est-ce que vous gardez en mémoire, on va dire, la première fois que le mot cancer a été prononcé devant vous ?
Oui, je me souviens bien. Bon, déjà, il y avait eu tout un parcours avant. Donc, j'avais lu les courriers que les médecins s'échangeaient. Donc, j'avais déjà une idée du mot qui allait être prononcé. Mais moi, je me souviens très bien quand on me l'a annoncé, on m'a dit, Noah a un cancer, c'est un gliome des voies optiques. Et moi, j'ai répondu tout de suite, il va mourir. Et le médecin m'a répondu, c'est pas impossible, c'est pas une verrue sur le menton dont il souffre.
Donc, je vous vois faire un geste de la tête, docteur Valto-Couanet, par exemple. Vous disiez tout à l'heure, ça s'apprend. C'est le genre de choses qu'on dit à ne pas faire, j'imagine.
Oui, je pense, enfin, sans vouloir être critique avec, je pense que c'est des choses en effet qui sont extrêmement difficiles à entendre.
Parce que par contre, le fait que les parents posent cette question, c'est tout à fait normal. Hein.
Voilà. Que les parents posent cette question, c'est tout à fait normal, mais il y a de multiples façons d'y répondre, y compris quand on est inquiet. Et je pense qu'il faut savoir employer les mots adaptés pour envisager cet avenir difficile, c'est le moins qu'on puisse dire, mais pas d'une façon aussi violente. Nos mots ont une violence parfois inacceptable pour des parents.
Et décuplé, Magali Bidou, quels symptômes vous avez alertés ?
Noah avait commencé le matin à avoir des petits vomissements et il avait un nystagmus.
C'est-à-dire qu'il a l'œil qui vibre, qui oscille de façon incontrôlable.
Oui, ça a paru du jour au lendemain. Je m'en suis rendu compte l'après-midi. Il était dans mes bras et je le regarde et je vois ses yeux qui bougent. Je dis, bon, c'est bizarre. Et vu qu'il vomissait un peu, j'avais surtout pensé à un petit rhume. Il avait 5 mois. On était début mai, Et je l'ai emmené chez mon médecin qui tout de suite l'a regardé et m'a dit « Oh, tu as vu ce qu'il fait avec ses yeux ?» Elle me dit « J'aime pas du tout. Emmène-le voir son pédiatre. » Et après, ça s'est fait assez vite. Ça, c'était début mai et on a eu le diagnostic pour la fête des mères.
Donc ça a été rapide. Aujourd'hui, votre fils est encore sous traitement. On l'a dit, il a 15 ans. Comment ça se passe ?
Oui. Ben, c'est difficile parce que c'est sa 7e ligne. Donc son corps est fatigué.
Ça veut dire 7e fois qu'il engage une chaîne de traitement complet.
Oui, 7e protocole. Ouais. Là, on est sur Avastin et Velbé. Donc, on est à mi-traitement, ça fait 6 mois. Mais bon, son corps est fatigué. Lui, par contre, ne l'est pas. Il a le moral. Lui, il vit sa vie autant que possible entre. Mais ça devient compliqué. Il a moins d'énergie pour faire plein de choses. Donc, c'est difficile au bout de 15 ans de lutte.
Et quand la maladie le laisse un petit peu tranquille entre deux traitements, comment il est ? Est-ce qu'il est scolarisé ? Est-ce qu'il a une vie, on dirait, avec d'autres enfants ?
Alors, Noah, à force de rechute et de lésions qui poussent un peu partout, il est handicapé. Donc, il est scolarisé en IEM, où il est très bien pris en charge, il est heureux. Là, en cours de traitement, il y va qu'une fois par semaine. Quand il n'est pas en traitement, on essaye 2 ou 3 fois, mais il est très, très fatigable, il a du mal à suivre. Mais il a ses copains à l'IEM, il a ses éducateurs qu'il aime aller voir. Lui, il est toujours joyeux, il est toujours content.
Et ça vous aide aussi dans votre voix, on l'entend, c'est ça qui vous porte.
Oh oui, c'est notre petit soleil.
Votre petit soleil. Et ce petit soleil, il a pas mal changé le cours de votre vie, y compris de votre vie professionnelle, Magali Bidou.
Ah oui, moi dans mon cas, j'ai dû arrêter de travailler, j'ai jamais pu recommencer. On n'a pas assez de répit. Souvent, Noah est déjà en répit au bout de 3 ou 4 mois après qu'on ait arrêté la chimio. On est déjà en rechute et du coup, c'est une évolution lente. Souvent, ça nous permet d'attendre jusqu'à 12 mois. Là, la dernière fois, on a pu attendre que 6 mois avant de reprendre. Mais donc, du coup, il n'y a pas de possibilité que je puisse travailler. Mes plans de carrière, j'avais 25 ans et ils se sont arrêtés là.
Ça a volé en éclats. On entend dans votre voix une forme de sagesse. Vous êtes passé par différentes étapes. Vous avez eu la colère, vous avez eu le rejet, vous avez eu la résignation. Vous êtes passé par quoi ?
Par tout ça. Partout. En 15 ans, j'ai eu le temps. au début, c'était vraiment la tristesse et puis la colère. On cherche ce qu'on a fait. Moi, on m'a dit c'est la faute à pas de bol quand il y a eu le diagnostic. Alors, c'est un diagnostic il y a 15 ans aujourd'hui. La façon de parler des médecins a quand même beaucoup changé. Même la relation entre les médecins. Moi, quand je suis quand même à la campagne et quand je me suis rendu compte que c'était une maladie qui gérait pas du tout ici, j'ai voulu aller à l'époque c'était à Necker et mon oncologue était pas très chaud à l'époque. Ça a été long pour que j'y aille. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'ils proposent systématiquement quasiment. Donc les choses, elles ont évolué en 15 ans.
L'implication pour toute la famille, on l'a bien compris. Il y a d'autres frères et sœurs, d'autres frères en l'occurrence. Comment ça se passe à la maison ?
Alors, mon deuxième, lui, va avoir 10 ans le mois prochain. Lui, il est né là-dedans. Tout petit, il est venu avec moi au chimio. Il a eu le diagnostic. J'avais eu une rechute une semaine après sa naissance. Donc, on a repris la chimio tout de suite derrière. Lilian, il avait 2 semaines qu'il venait déjà avec moi au chimio. Pour le petit, là, qui a 18 mois, c'est plus compliqué. Alors, là, la première rechute, il a pu venir avec moi. Donc, lui aussi a suivi le même chemin. Mais aujourd'hui, avec le Covid, il peut pas venir. Donc, Lohan, lui, est plus isolé de ça. Il va chez mes parents. Lui, il a une vie un peu plus classique. Il est un peu plus isolé, du coup. Mais Lilian est le double de Noah. Il s'adore.
Et le regard, justement, qu'il a sur son frère, à sa maladie, on peut aussi passer, quand on est un petit frère, par des sentiments assez contrastés. Ça se passe comment?
Alors, lui, là, il a juste un truc, c'est que dès qu'il peut faire un vœu ou quoi que ce soit, il aimerait que son frère soit guéri. Et là, pour Noël, il a fait des cartes de Noël. Et pourtant, moi, j'étais malade, j'étais à la clinique, mais sa carte de vœux était pour son frère. Il lui souhaitait une année 2021 sans chimio. Lui, c'est son rêve. Il n'a pas de regard particulier sur son frère. Il le voit tel qu'il est. Il sait qu'il est différent. Quand un copain vient à la maison, de suite, il lui explique. Tu sais, tu vas voir mon frère, il est différent. Mais il fait de la chimio. Il est courageux. Voilà. Lui,
c'est son frère, tout simplement. Merci infiniment, Magali Bidou, pour votre témoignage. On vous retrouve, Dominique Valto-Couanel, cet impact psychologique, l'onde de choc. Est-ce que vos services spécialisés, l'oncologie pédiatrique, ça a intégré cette dimension? On imagine que oui, prise en charge spécifique, psychologique, c'est systématique?
Tout à fait. Le département de cancérologie de l'enfant et de l'adolescent, Gustave Roussier, a été le premier service en France à accueillir un psychiatre en son sein pour prendre en charge ses enfants et ses familles. Pas parce qu'ils sont malades, mais simplement du fait de l'impact de la maladie. Et à l'heure actuelle, outre une psychiatre, il y a des psychologues qui voient systématiquement enfants, parents et éventuellement fratrie à la demande. En outre, on a essayé de mettre en place, qui est un peu mis à mal par le Covid, des groupes de fratrie pour que ces enfants, frères et sœurs d'un enfant malade, puissent parler de ce qu'ils vivent et pour les aider à cheminer. Parce que, comme l'a dit cette dame, c'est pas simple pour eux malgré tout.
Alors, on comprend bien qu'il y a la thérapeutique, les protocoles, les différents médicaments. Et puis, il y a bien sûr ce qui ne relève pas strictement parler du médical, la scolarité, les sentiments, l'insouciance, la dynamique. Comment on fait pour bien soigner et bien laisser grandir?
Il faut leur permettre d'être eux-mêmes et leur donner les moyens de s'exprimer. Et c'est pour ça que dans le service, il y a une école, il y a des enseignants qui vont les aider à faire leur cursus scolaire, des enseignants qui les aident aussi pour le collège et le lycée, des systèmes qui ont été mis en place pour ça. Il y a aussi un atelier d'art plastique et un atelier d'écriture qui leur permettent de s'exprimer sur le plan artistique et de dire les choses et continuer d'être. Je crois que c'est ça le plus important. Essayer de leur permettre que la maladie impacte le moins possible leur vie et leur permette de rester eux.
Dominique Valto-Couanel, on va se retrouver dans quelques instants avec d'autres regards, d'autres témoignages, notamment sur l'accès aux soins en oncologie pédiatrique dans les pays du Sud. On revient après une pause musicale avec Stevie Wonder, 1976. Est-ce qu'elle n'est pas adorable ?
Isn't she lovely?
Priorité santé sur RFI, journée mondiale du cancer de l'enfant. Nous sommes toujours en compagnie du docteur Dominique Valto-Couanet, chef du département de cancérologie de l'enfant et de l'adolescent au sein de l'hôpital Gustave Roussy à Villejuif. Docteur, on parle du cancer des enfants. Est-ce qu'il existe des spécialités en oncologie pédiatrique comme ça peut exister chez les adultes, cancer du sein, cancer de la femme, cancer de la prostate, urologie? Est-ce qu'il y a les mêmes distinctions?
Il y a des distinctions. Il y en a en effet certains endroits où on s'occupe spécifiquement d'enfants qui ont des leucémies. Et nous, dans le département, on s'occupe plutôt de patients qui ont des lymphomes ou des tumeurs solides. Ce sont deux mondes différents. Dans d'autres endroits, c'est pris en charge de façon conjointe. Mais ça demande des expertises particulières. Et dans les tumeurs solides, il y a plein de maladies. Nous, dans le service qui avons une expérience, disons, européenne, chacun d'entre nous a sa spécialité dans un type de tumeur qui lui permet de connaître très très bien les choses et de faire avancer les choses et développer des programmes thérapeutiques et de recherche.
Et de la chirurgie, j'imagine.
Alors la chirurgie est faite par des spécialistes qui sont chirurgiens pédiatres et qui ont développé une compétence particulière pour opérer ces tumeurs.
Alors on va retrouver tout de suite d'autres acteurs de cette prise en charge des cancers des enfants en Afrique.
RFI à Kinshasa, 105 FM.
Et on donne tout d'abord la parole au docteur Alain Boudiongo. Bonjour.
Oui, bonjour madame, bonjour à tous.
Docteur Boudiongo, vous êtes oncopédiatre, responsable de l'unité d'oncologie pédiatrique aux cliniques universitaires de Kinshasa. Est-ce que vous pouvez nous dire pour commencer, docteur, quels sont les cancers les plus fréquemment pris en charge dans votre service?
Oui, merci beaucoup. Chez nous avons plus les cancers de l'œil qu'on appelle les rétinoblastomes, qui représentent environ 25% de tous les cancers pédiatriques. Et puis, en deuxième lieu, on a les lymphomes, les cancers qui touchent les systèmes immunitaires des enfants. Et puis, il y a les leucémies, les cancers du sang, les néphroblastomes, les cancers qui touchent les reins. Et puis, il y a les sarcomes et les tumeurs osseuses. Mais il y a aussi d'autres. Mais en termes de fréquence, c'est le rétinoblastome qui est le cancer le plus fréquent actuellement.
Et en ce qui concerne, on va dire, les soins, la réussite de ces soins, est-ce que certains cancers, vous réussissez mieux à les prendre en charge que d'autres?
Oui, effectivement, il y a certains cancers, nous réussissons par rapport s'il faut comparer la survie. Et parce que la prise en charge demande un plateau technique, hein. Par exemple, pour les leucémies, les cancers du sang, c'est difficile parce que ça demande autre chose. Il faut les centres de santé, des transfusions puissent fournir tout ce que nous avons besoin, les sangs, les plaquettes. Mm-hmm. Mais pour les néphroblastomes, quand même, c'est une tumeur que nous maîtrisons très bien. La prise en charge est faite conjointement avec les chirurgiens. Et nous avons quand même beaucoup d'enfants guéris des néphroblastomes comparés, par exemple, aux leucémies. Les lymphomes aussi, nous avons quand même beaucoup d'enfants en rémission comparé aux leucémies aussi.
Alors, le diagnostic précoce, hein, c'est absolument essentiel, d'autant plus qu'on l'a dit tout à l'heure avec notre invité, eh bien, la prévention, c'est pas vraiment pertinent en ce qui concerne les cancers de l'enfant. Docteur Alain Boudiongo, dans votre pratique à Kinshasa, est-ce que vous constatez que les enfants arrivent plutôt à un stade avancé de la maladie?
Effectivement, la grande partie arrive à un stade avancé de la maladie. Donc déjà, on a un problème quand ils arrivent parce qu'ils ont consulté dans plusieurs centres hospitaliers avant d'arriver à l'hôpital. Et ça, ça a un effet négatif sur la représentation de la maladie cancéreuse chez les parents. Ils vont dire qu'on a soigné, on n'a pas trouvé, sûrement c'est une maladie mystique. Donc la grande majorité arrive au stade avancé. Il y a aussi ceux qui arrivent par manque d'argent. Ils sont restés à la maison. Mmh. D'autres vont consulter les tradis praticiens. D'autres, carrément, parce qu'il n'y a pas de moyens, les coûts élevés de la prise en charge, ils ne vont pas venir à l'hôpital.
Alors, vous restez avec nous, docteur Alain Boudiongo. Tout à l'heure, on a entendu une maman. À présent, la parole au premier concerné.
RFI à Abidjan, 97.6 FM.
Témoignage dans Priorité Santé, témoignage d'une patiente, d'une ancienne patiente, c'est aussi une enfant. Jimara Shiratou, bonjour.
Bonjour Tati.
Alors, dis-moi Jima, on va se tutoyer, hein, parce que comme tu as 13 ans, je crois que je peux te dire tu. Dis-moi, pourquoi est-ce que tu as été à l'hôpital quand tu étais petite ?
Quand j'allais à l'école au CP1, à l'âge de 6 ans, je me suis rendu compte que j'avais une boule sur le cou. Donc, je suis venue parler à ma mère. Et ma mère a dit à mon père, a dit que ça va passer. On attendit un peu et la boule devient toujours grande. Mais elle ne me faisait pas mal.
Ensuite, donc, j'imagine que maman a décidé de te conduire voir un docteur.
Oui.
Qu'est-ce que t'as dit ce médecin ?
Le médecin nous a dit que c'était ganglion. On a suivi un traitement pendant 9 mois. C'était un traitement qu'on fait par des comprimés ou on prend un médicament de tuberculose pour que la boule passe. Mais ça ne passe pas et c'est ça grave. Un jour, ma maman dit, elle veut parler au docteur lui-même. Mmh. Nous sommes partis voir le docteur. Ma maman a demandé, docteur, combien de mois soignes-tu le ganglion, maman? Et le docteur a répondu, environ 6 mois. Ma maman dit, ça fait 9 mois, c'est pas parti. C'est comme cela, le docteur nous a envoyé contacter avec le docteur Fatao, chez de Yopougon. Quand il m'a opéré, 2 semaines après, la maladie est revenue. C'est ça maintenant, le docteur Fatao nous a mis en contact avec docteur Lee. Elle se trouve au CHU de Tréjou. C'est là-bas maintenant, nous avons suivi des traitements appelés le chimio pendant 6 mois.
Alors si on résume bien, tu es allé au CHU de Yopougon, tu as vu un premier médecin, tu as été opéré, ça n'a pas fonctionné, la boule est revenue. Ensuite, tu es allé au CHU de Trècheville, là tu as eu la chimiothérapie. Comment c'était ce traitement par chimiothérapie? Est-ce que ça t'a rendu malade?
Ça m'a rendu faible. Je vomissais.
Tu vomissais, tu étais très fatiguée. Ton cancer, il a un nom compliqué. Tu connais son nom?
Son nom est un peu compliqué.
Il s'appelle rhabdomyosarcome, c'est bien ça?
Oui.
Aujourd'hui, la boule, elle est partie. La chimiothérapie, c'est fini. Comment tu te sens?
Je me sens à l'aise grâce à ma mère qui a bien pris soin de moi.
Super maman hein, qui est allée voir le docteur, ça passait pas, elle n'était pas contente, donc elle a persévéré, elle a persisté pour que sa petite fille aujourd'hui soit en bonne santé et puis suive des études. Est-ce que tu gardes des souvenirs de tout ça? Tu vois ça comment?
Bon, je vois ça comme quelque chose qui m'a rendu plus forte. Parce que grâce à ça, j'ai connu vraiment beaucoup de choses dans la vie. Je remercie aussi les docteurs qui ont bien pris soin de moi. J'ai appris que vraiment, Dieu fait des miracles. Il y a toujours quelque chose devant qui nous attend, le bonheur.
Le bonheur qui t'attend et le bonheur, ce sera de faire quoi pour toi comme métier demain?
Je veux être un docteur, travailler à la pédiatrie.
En pédiatrie, t'occuper des enfants?
Oui.
Et aujourd'hui, si un de tes amis te dit « j'ai un cancer », qu'est-ce que tu lui diras, toi qui es passé par là, qui a été capable de surmonter cette épreuve? Qu'est-ce que tu vas lui dire?
Je lui dirais d'aller au CHU de Tréjure, rencontrer le docteur.
Et est-ce qu'à un moment donné, quand tu étais malade, tu t'es sentie mal regardée par les autres? Tu t'es sentie rejetée par les autres?
Oui. À un moment donné, quand la maladie est sortie, mes amis me rejetaient. Ils ne voulaient même pas partager ma nourriture car ils pensaient que le cancer est une maladie qui contamine. Alors qu'elle ne contamine pas.
Vous en parlez des fois encore aujourd'hui avec maman de la maladie?
Oui, j'ai dit à ma mère, quand je regarde mon épauration, ça me donne des pensées d'avant. Quand je regarde ma mère aussi, je dis, ma mère est-elle fatiguée comme ça à cause de moi? Grâce à Dieu, j'ai fini mes études et je connais bien soin de ma mère.
Eh bien, Jima, on te dit bravo pour tout ce chemin, tout ce courage. Et on peut dire, on peut s'embrasser comme on est loin, on ne risque pas de se donner des microbes ni des virus. Je te fais un gros bisou.
Merci.
Arachi, 13 ans, collégienne à Abidjan. Elle a pu éviter le décrochage, notamment grâce à l'initiative L'école à l'hôpital, portée par l'association AEC pour l'unité d'oncopédiatrie du CHU de Trècheville d'Abidjan, Côte d'Ivoire. Docteur Alain Boudiongo, on vous retrouve en direct de Kinshasa. Toujours avec nous en studio, docteur Dominique Valto-Kouanet. Je disais tout à l'heure, cette maladie qui a touché Rachi, ce cancer à l'âge de 6 ans, rhabdomyosarcome, de quoi s'agit-il?
C'est une tumeur qui est développée à partir des cellules des muscles. C'est une tumeur assez spécifique à l'enfant et l'adolescent. Et c'est une tumeur qui peut être dans n'importe quel endroit du corps et qui prend des formes très différentes. Et je suis fascinée par l'interview de cette jeune fille qui montre bien d'abord son courage à elle, hein, qui porte un message important, c'est le cancer n'est pas contagieux, il faut s'en occuper et s'en occuper vite. Hein. Le courage de cette maman, parce que ce qu'on connaît, je pense aussi bien en Afrique que dans d'autres pays, c'est la volonté farouche de mamans qui veulent absolument faire le mieux possible pour leur enfant. Et puis la mise en place, notamment en Afrique, de protocoles adaptés. Et ça a été l'œuvre du GFOP et qui a été fondée par Monsieur Le Maire, qui était un des chefs de service de Gustave Roussy et qui tenait beaucoup à partager l'expérience, mais localement, pour donner accès à des traitements adaptés à ces enfants.
20e année de ce groupement, on va y revenir plus tard. Docteur Alain Boudiongo, cette petite fille souligne, notre témoin à plusieurs reprises, la détermination de sa maman, on l'a dit. Dans son histoire, on l'entend bien et on entend aussi que ce cancer, eh bien, ce n'est pas une fatalité chez l'enfant. Il faut le souligner à beaucoup de parents qui peuvent vraiment être excessivement inquiets, même lorsqu'on vit comme elle en Côte d'Ivoire ou comme chez vous en RDC.
Oui, effectivement, le cancer n'est pas une fatalité et il n'est pas synonyme du désespoir. C'est une maladie qui se soigne et que l'on guérit. Plus tôt il est diagnostiqué, plus on a des chances de guérir. Nous insistons auprès des parents. Donc, ce n'est pas une maladie mystique, ce n'est pas un mauvais sort aussi. Parce que parfois, on pense qu'en Afrique, c'est un mauvais sort, on ne peut pas avoir un cancer chez un enfant. Donc, amener les enfants en consultation dans les hôpitaux où il y a des médecins ou des pédiatres, si on n'est pas proche d'un centre d'oncologie, pour commencer la prise en charge précocement.
On va en reparler de cette prise en charge, docteur Valto-Kouanet. Cette petite fille le dit avec beaucoup de sagesse. La maladie l'a transformée, c'est quelque chose que vous constatez aussi chez vos jeunes patients?
Oui, je pense que c'est une expérience qui ne laisse pas indemne, bien sûr. Et je pense que l'accompagnement permet aussi de transformer cette épreuve difficile en une force pour la suite. Et c'est ce qu'elle montre bien. Et un certain nombre d'enfants que je connais ont eu un parcours personnel très différent et très positivement impacté par la maladie. Après, les choses sont pas complètement simples, mais c'est clair qu'il faut aider à faire en sorte que cette épreuve difficile devienne une force pour eux. Elle le dit très, très bien.
Transformer l'épreuve, Institut Gustave Roussy en région parisienne, unité d'oncologie pédiatrique aux cliniques universitaires de Kinshasa, évidemment. Des moyens complètement différents, hein, on l'imagine. Docteur Alain Boudiongo, cette question de la prise en charge, de l'accès aux prises en charge, c'est toujours un obstacle majeur, notamment en Afrique subsaharienne.
Oui, la prise en charge des cancers, c'est vraiment l'accès aux soins, c'est un obstacle majeur. Déjà ici, la majorité, on n'a pas de couverture sanitaire, il n'y a pas de mutuelle. La prise en charge, ce sont les parents, les familles qui supportent le coût. Or, le cancer, c'est une maladie dont la prise en charge a un coût très élevé. Vous allez voir déjà avec la situation socio-économique précaire des parents et sortir encore des moyens pour prendre en charge, et ça pose problème. Même pour ceux où on commence les traitements qui viennent dans des stades précoces, parfois ils doivent abandonner les traitements parce qu'ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas des moyens pour faire les examens complémentaires ou encore faire des interventions, parce que la prise en charge, elle est vraiment multidisciplinaire. Donc, c'est tout le monde. Parfois, on fait la chimiothérapie, mais pour d'autres cancers, il faut faire la chirurgie, la radiothérapie, et ça, c'est pas pour la population pauvre.
Alors, on disait des moyens différents, même si votre unité, docteur Boudiongo, depuis 2016, votre service est devenu une unité pilote du GFAOP. On en parlait justement, ce groupe franco-africain d'oncologie pédiatrique. Qu'est-ce que ça a changé pour vous?
Oui, l'unité, il faut dire que nous sommes unité pilote du GFAOP. Il y a eu amélioration. Nous avons pu améliorer la survie des enfants atteints des cancers. Donc, il y a eu d'abord la formation du personnel, les médecins, les infirmières. Et aussi, on a fait des formations continues pour les différents intervenants, les chirurgiens, les anapathes et les radiologues. Nous travaillons maintenant en collaboration, donc étroite collaboration multidisciplinarité. Ils nous apportent aussi des anticancéreux qu'ils envoient gratuitement, mais parfois, nous avons des ruptures de stock des médicaments. Et les anticancéreux envoyés, c'est pour les 5 tumeurs les plus fréquentes. Mais pour les autres tumeurs, on n'envoie pas les anticancéreux. Et actuellement, grâce au GFAOP, nous avons une association de soutien qui accompagne les parents et les enfants. Nous avons une maison des parents pour les parents qui viennent d'ailleurs. Il faut dire que 30% de nos malades viennent de des provinces ou encore des pays limitrophes comme l'Angola.
Alors, on est en ligne avec le président de ce groupe qui fête cette année ses 20 ans. Professeur Pierre Bay, bonjour.
Bonjour.
Alors, prise en charge locale par du personnel formé, c'est ce qu'on entend avec cet exemple de Kinshasa. C'est vraiment quelque chose de très important pour votre association, soigner les enfants près de leur lieu de vie.
Écoutez, c'était à l'origine de l'idée assez révolutionnaire à l'époque qu'avait eu le professeur Jean Lemaire de Gustave Roussy en 2000 avec quelques pédiatres africains sur une idée très simple. Les enfants africains atteints de cancer peuvent et doivent être traités et guéris en Afrique par des équipes africaines.
Parce qu'avant, donc, qu'est-ce qui se passait justement avant, on va dire, cette petite révolution culturelle de dire rien ne vaut que d'être soigné près de chez soi, avec les parents à proximité, avec baigné dans sa propre culture. C'est absolument essentiel aussi de permettre aussi une visibilité du soin et de la guérison, y compris pour ses enfants.
Absolument. Alors avant, la plupart des enfants n'étaient même pas diagnostiqués et pas traités. Quelques, entre guillemets, privilégiés étaient envoyés à l'étranger pour être pris en charge, mais compte tenu des délais et de l'évolutivité forte des cancers de l'enfant, ils arrivaient d'ailleurs souvent trop tard, et le traitement n'était pas possible. Donc ça a complètement transformé cette vision de la maladie, et on peut dire que en fêtant les 20 ans aujourd'hui, le GFAOP, c'est devenu un réseau de 22 unités soutenues dans 18 pays francophones, plus de 600 personnes qui ont été formées au cours de ces 20 ans, dont une centaine de pédiatres, avec des formations pendant un an, c'est pas du tout des formations
éclair, au rabais,
300 infirmières, et Aléine vient de le rappeler, la formation aussi à la pluridisciplinarité, car le pédiatre n'est pas tout seul, il est associé aux chirurgiens, aux pathologistes, aux radiologues, un ophtalmologiste pour les tumeurs de l'œil. Voilà, c'est donc tout un ensemble qui a été mis en place au cours de ces 20 ans, à travers des formations qui ont été faites à Paris, puis ensuite au Maroc, à Rabat, depuis 2011, et puis maintenant aussi à Dakar, au Sénégal, dans l'Institut Jean Lemaire, qui porte le nom du fondateur du GFAOP.
Docteur Adeline Boudiongo, tout à l'heure, parlait d'un groupe de cancers qui était pris en charge spécifiquement. C'est ce groupe de 5 maladies. Il s'agit de quel cancer?
Alors, ces 5 maladies, c'est le cancer du rein dont on a parlé, le néphroblastome, les deux types de lymphome, le cancer de l'œil, le rétinoblastome, et une variété de leucémie. Ce sont les 5 tumeurs parmi les plus fréquentes des cancers de l'enfant et surtout les plus curables. Pour cela que l'on guérit actuellement quelquefois plus de 90% des enfants atteints en France. Et c'est pour ces tumeurs que l'on voit les résultats les plus rapidement.
Dernière question, professeur Pierre Bay. On perçoit bien l'importance de l'implication des équipes sur le terrain. Mais est-ce que pour vous, et peut-être que vous avez davantage de liberté de ton pour vous prononcer sur ce sujet, est-ce que l'appui des gouvernements, des pouvoirs publics est à la hauteur de l'enjeu? Je disais tout à l'heure, un problème de santé publique. On sait très bien que dans les pays du Sud, on pense maladies infectieuses, on pense santé maternelle et infantile. Est-ce qu'on pense aussi cancer de l'enfant?
Alors, on est en train de terminer le programme stratégique pour les 10 prochaines années jusqu'en 2030. Et on s'inscrit là-dedans dans l'objectif général de l'OMS, qui est de guérir 60% des enfants atteints de cancer dans le monde d'ici 2030. Et c'est très important. Nous avons des actions, nous savons faire de la formation, nous savons développer la recherche clinique, des jumelages, mais il faut aussi contribuer au niveau international au plaidoyer à faire reconnaître les cancers de l'enfant comme une priorité, à donner accès aux médicaments anticancéreux, ce qui n'est pas le cas actuellement, et à la couverture santé universelle, qui est absolument indispensable, car actuellement, ce sont les parents qui ont à payer la quasi-totalité des soins au quotidien.
On peut même dire que cette prise en charge, cette couverture, c'est même le préalable à tout accès à la santé.
C'est absolument indispensable, et ça ne peut venir que d'un niveau au-dessus des nations, à travers les actions que mène l'OMS, et convaincre les gouvernements que c'est absolument indispensable. Et notre action, elle est aussi d'aider les unités à se développer localement, et Aléine l'a bien dit, aider à ce qu'il y ait des maisons des parents, parce que les enfants habitent souvent très loin du lieu, de l'équipe qui a été formée, et qui est en général dans la capitale. Mais si on prend l'exemple de la RDC, c'est sûr que le pays est tellement vaste et le nombre d'enfants à prendre en charge tellement important qu'il faut trouver tout un tas de supports pour l'action de cette unité très performante.
Merci beaucoup, professeur Bay, pour l'action de ce groupe franco-africain d'oncologie pédiatrique. On vous retrouve à Kinshasa, docteur Boudiongo. On a bien entendu des enfants qui peuvent venir de tout le pays, des provinces y compris. Comment justement les parents sont au courant de l'existence de ces maladies? Comment ça se passe pour la sensibilisation?
Il faut dire que là, nous avons commencé la sensibilisation. Avant, il n'y avait pas de plan de sensibilisation parce que normalement, l'activité oncologique doit se faire dans le cadre d'une stratégie ou des politiques nationales, c'est-à-dire un plan de cancer. Mais à partir depuis l'année passée, j'ai vu que le gouvernement s'est impliqué. On a commencé maintenant les sensibilisations. Là, on a commencé la sensibilisation au niveau des professionnels de santé. Par exemple, nous avons réuni les pédiatres via la Société pédiatrique congolaise pour informer ou encore parler des signes précoces des cancers des enfants. Et avec les GFAOP, on a un plan de sensibilisation qui sera annuel et pendant au moins 5 ans pour parler, sensibiliser la communauté, sensibiliser les professionnels de santé aussi. Mais nous avons quand même de temps en temps commencé à faire un réseau de prise en charge des médecins de proximité pour essayer d'envoyer les malades facilement. Parce qu'il faut dire que nous n'avons pas de... On ne suit pas pyramide de santé. On a un problème au niveau des références dans notre pyramide de santé du pays.
Avec notamment peut-être certains manques au niveau de la pédiatrie?
Oui, effectivement. Donc, nous avons maintenant des contacts. La majorité des pédiatres qui sont dans des hôpitaux, ils savent maintenant qu'il y a une unité d'oncologie qui est fonctionnelle, qui existe, et où on a des anticancéreux envoyés par les FAOP, et facilement, ils nous envoient les malades. Avec les ophtalmologistes aussi, en 2019, nous avons fait une réunion pour sensibiliser. Nous avons parlé du cancer de l'œil, où on a invité les ophtalmologistes de toute la ville de Kinshasa, et puis quelques ophtalmologistes des provinces qui sont venus assister à cette réunion.
Merci infiniment pour toutes ces précisions. Docteur Alain Boudiongo, merci d'avoir répondu à nos questions. Très bonne journée à Kinshasa. Dominique, docteur Valto-Kouanet, notre émission touche à sa fin. Soigner tous les enfants, on l'a bien compris. Un objectif, y compris dans votre établissement, parce que il y a des jeunes patients qui viennent de très loin qui sont soignés chez vous aussi.
Oui, il y a à peu près 17% de patients qui viennent de l'étranger et certains de très loin. Le plus souvent, pour recevoir des soins qui ne peuvent pas être faits ailleurs du fait de traitements très spécifiques.
Il y a également des actions de formation pour des médecins étrangers.
Oui, on accueille des médecins étrangers, on essaie de les former, et aussi des soignants, parce que comme ça a été souligné, c'est important de former les équipes pour qu'ils puissent ensuite repartir pour être formés, avec des objectifs qui sont évidemment différents en fonction des pays d'origine.
Et de la disponibilité, là encore, des traitements et de la fréquence des maladies. Docteur Valto-Kouanet, toute dernière question. On a bien compris que il y avait des progrès, il y avait des efforts, mais sur un pays comme la France, le cancer, c'est encore la première cause de mortalité par maladie pour les enfants de plus de 1 an. Vous, si vous aviez une baguette magique, sur quel levier il faut agir?
Il faut continuer de développer la recherche pour pouvoir continuer d'améliorer les traitements, développer des nouvelles thérapeutiques, et ça, ce sera la clé de l'avenir. Travailler sur l'immunologie, travailler sur les nouveaux médicaments.
Vous êtes une femme d'expérience, vous avez vu les choses changer en quelques dizaines d'années.
Oui. Une amélioration. Les choses ont énormément changé, à la fois en termes de réussite et de taux de guérison, mais aussi d'accompagnement. Et aussi un autre aspect qui est extrêmement important, c'est les séquelles que vont laisser le traitement, essayer de diminuer ces séquelles. Et c'est pour ça qu'on a développé un grand programme de recherche pour à la fois travailler sur les nouveaux médicaments, l'immunologie des tumeurs et aussi le suivi à long terme de ces patients. Et ça, on le fait grâce au soutien institutionnel général, mais aussi grâce aux associations. Et je tiens à remercier toutes les associations qui nous soutiennent, et en particulier la campagne Guérir le cancer de l'enfant au XXIe siècle. Grâce à tous ces soutiens, on arrivera, je l'espère, à guérir ces enfants et faire que leur vie soit belle.
Merci beaucoup, docteur Dominique Valto-Couenet, d'avoir répondu à l'invitation de Priorité Santé. Avant de se dire tout à fait au revoir, un peu de musique, Laurine Hill, et ce titre, To Zion. Zion.
Sure what the balance held, I touched my belly overwhelmed by what I had been chosen to perform. But then an angel came one day, told me to kneel down and pray, for unto me a man child would be born. Oh, this crazy circumstance, I knew his life deserved a chance, but everybody told me to be smart. Look at your career, they said, Lauren, baby, use your head. But instead I chose to use my heart. Now the joy of my world is in Zion.
Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique et réalise votre émission. C'est Toussama Ké, Ophélie Lassène, Didier Bleu et Laurence Nau. Et demain, dans Priorité Santé, nous allons parler de la psychiatrie. Comment est-elle perçue? À la fois par les personnes concernées par la maladie mentale, mais aussi par le grand public. Pourquoi l'hôpital psychiatrique fait-il encore peur à certains? Comment changer ce ressenti et cette image? On se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien et lavez-vous bien les mains.
Vous avez suivi Priorité Santé avec Sunou Assurance, qui a le bon profil pour vous accompagner tout au long de cette nouvelle année qui s'annonce digitalement innovante. Sunou Assurance, notre métier, l'assurance.
7 milliards